Chapitre 52. Quand Leslie Wade entre dans le café, Alice sait immédiatement qu'il s'agit de la journaliste. C'est une petite femme bourrue avec les cheveux courts et blancs et qui porte d'étonnantes lunettes à la monture couverte de strass. « Vous êtes le fils !» commence-t-elle en jetant un regard fasciné à Frank pendant qu'elle saisit une serviette en papier entre ses doigts aux ongles roses.
« Ah oui ?»
elle acquiesce. « Toute cette affaire est très mystérieuse. De quoi vous souvenez-vous ? »
« De mon père, mort dans mes bras. De ma sœur, disparaissant dans les vagues. De la grande maison blanche, de Marc. De le revoir à Londres, allant au travail. De cette nuit où il a attaqué ma sœur. Et j'ai lâché mon café. »
Il s'arrête un instant.
Ensuite, je ne me rappelle plus rien. Jusqu'au moment où Alice m'a trouvé sur la plage.
Leslie pose ses mains sur la table et commence son récit. En 1993, un jeune homme du nom de Graham Ross est retrouvé sur la plage, assis à côté du corps sans vie de son père. Il ne sait pas qui il est, qui est cet homme mort, ni pourquoi ils sont là.
Alice retient son souffle. Ce n'est donc pas la première fois que ça arrive à Frank.
Sa sœur a disparu, tout comme son petit ami, Mark Tate. On ne retrouvera jamais leur corps, et Graham n'est pas en mesure de témoigner. À l'époque, on en reste à cette version des faits. Graham et Kirsty Ross vont à une fête chez la tante de Mark, où ils consomment de l'alcool et de la drogue avant de prendre un bain de minuit. Mais la mère est trop agitée et Kirsty et Mark se noient. Monsieur Ross, ne les trouvant pas dans la maison, part les chercher sur la plage et succombe à une crise cardiaque en essayant de les sauver. Le choc de voir son père mourir dans ses bras entraîne Graham dans un état de fugue dissociative.
« C'est ce qui lui arrive en ce moment même », l'informe Alice.
« Vraiment ?» s'étonne Leslie. « Dans ce cas, il devrait probablement être à l'hôpital, non ?»«
C'est ce que je lui ai dit », rétorque Alice en se raidissant.
« Dès le début, mais il ne voulait pas. Et j'étais sur le point de l'emmener au commissariat aujourd'hui. On se disait adieu. » Leslie se retourne vers Lily, ignorant les remarques d'Alice.
« Rappelez-moi votre rôle dans cette histoire. »«
Je vous l'ai déjà dit. Je suis la femme de cet homme qui se serait noyé en 1993. »
Leslie réfléchit un instant.
« Voilà ce que je pense, » leur propose-t-elle. « Vous ne devriez peut-être pas emmener Graham, ou Frank comme vous préférez, à l'hôpital ou au commissariat tout de suite. Nous pouvons agir de notre côté sans impliquer d'autres personnes. »
Derry lui lance un regard méfiant.
« Vous voulez écrire un article ?»«
Pas forcément tout un article, mais un petit quelque chose, oui.
Qu'est-il arrivé à l'adolescent retrouvé sur la plage ? Enfin, vous voyez le genre. » répond Leslie en leur souriant de toutes ses dents avec un air de chat qui vient de repérer une souris. Sa démarche est de toute évidence très intéressée, mais Alice s'en fiche tant qu'elle peut garder Frank un peu plus longtemps.
Derry regarde Alice avec un air inquiet, mais cette dernière hoche la tête fermement.
Son amie lève les yeux au ciel. Leslie a déjà sorti un carnet et un stylo de son sac et attend avec une impatience non dissimulée.
Alors, Frank ou Graham, d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez ?
« Frank, » murmure-t-il.
Le cœur d'Alice fond.
« Donc, Frank, quand vous avez quitté Riding House Bay, vous êtes retourné chez vous avec votre mère, mais sans votre sœur ni votre père. Et ensuite, que s'est-il passé ? Avez-vous retrouvé la mémoire ?»«
Je crois. Enfin, j'imagine. Je me souviens de ma mère. Elle est encore en vie. Elle habite juste à côté de chez moi. Je me souviens de mon père, de ma sœur. » Nous étions au pub ce soir-là, et il y avait Mark et ses amis. Nous sommes passés à la maison pour inviter Kirsty à venir avec nous à la fête. Je m'en souviens un peu. La musique était très forte, il y avait des gens bizarres. J'ai embrassé cette fille, Izzy. Et je me souviens de choses avant les vacances, de mes amis à Croydon.
« Tu viens de Croydon ?» l'interrompt Alice.
« Ce n'est qu'à 1 ou 2 miles de Brixton. Ils étaient si proches pendant toutes ces années. »
« Oui, je viens de là. Ce n'est pas très cool, si ?»«
J'adore Croydon, le centre commercial White Gift !»
Frank lui sourit et se retourne vers Leslie qui s'éclaircit la gorge.
« Quand je suis rentrée chez moi, j'ai plus ou moins repris les choses là où elles en étaient restées. Je suis retournée au lycée, j'ai traîné avec mes copains, j'ai passé le bac. Et je crois aussi que j'ai suivi une thérapie pendant assez longtemps. Mais je n'ai jamais cherché à retrouver mes souvenirs de cette soirée-là. J'ai accepté la version de la police, qu'on était allé se baigner défoncé et que ma sœur et Marc s'étaient noyés. C'était la seule explication logique. J'avais parfois l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important qui me permettrait de mieux comprendre, mais c'est resté enfoui en moi. Jusqu'à ce jour à Londres, je l'ai vu.
« Je comprends, » ponctue Leslie, reposant son stylo un instant. « Et de quoi vous souvenez-vous maintenant ?»«
Je... » commence Franck en fermant les yeux. « Je suis désolée. Mon cerveau est bloqué sur ce moment où j'ai fait tomber mon café. Laissez-moi me concentrer. »
« Pas de problème, Franck, » le rassure Leslie. « Prenez votre temps, on n'est pas pressé. » Franck essaie de se souvenir du concours de mathématiques. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils ont gagné? Il se souvient de prénoms. Zach, Nazia, Mohamed, Sam, Aïcha, Crystal, Anna, King, les élèves du groupe. Et après, était-il retourné au collège? Avait-il continué à enseigner? Non. C'était les vacances de Pâques. Ils étaient tous rentrés chez eux. A-t-il pris sa voiture? Le bus? Il voit le numéro 172, valide sa carte de transport, s'assied dans le fond, pose son sac en cuir sur ses genoux. Il retourne à l'appartement, celui qu'il a vu la dernière fois, dans une petite rue sale. Une lumière s'allume lorsqu'il s'approche de sa porte. L'odeur de la pâtée pour chat du matin. Il vide le bol, le nettoie, le remplit. Brenda se frotte à ses jambes. Il corrige des copies. Regarde la télé, tape sur Internet le nom de l'entreprise pour laquelle travaille Mark Tate. Des services financiers. Il clique sur l'onglet « Qui sommes-nous ?» et fait défiler les portraits jusqu'à ce qu'il le trouve. Carl Monrose. Il prend à manger dans le réfrigérateur. Des lasagnes que sa mère lui a préparées la semaine d'avant, quand il a eu la grippe. Ses pensées le mènent titubant, de ses lasagnes réchauffées jusqu'à un quai de gare. Le quai numéro 4, pour prendre le train de 17h06 à destination Disgristed, au milieu d'une foule de gens qui rentrent du travail, les yeux rivés sur l'arrière du crâne de Mark Tate. Puis soudain, il se trouve à l'école, assis dans un bureau. Les élèves ne sont pas encore là et il porte un jean. C'est encore les vacances. Il demande un congé exceptionnel. Son grand-père est très malade. A-t-il vraiment encore un grand-père ? L'homme assis de l'autre côté du bureau, un homme plus âgé au visage buriné et à la coupe afro soignée, acquiesce.
« Prenez quelques jours. On devrait s'en sortir sans vous pendant une petite semaine. »
« Joshua Hardman, » lit-il sur la plaque de la porte, « proviseur. » Alice lui tend une tasse de café. « Ça va ?» lui demande-t-elle. Il perçoit sa voix comme l'écho d'une musique lointaine. Il se souvient d'avoir discuté avec sa mère au téléphone.
« Je dois partir en formation. C'est au milieu de nulle part et je ne serai pas joignable. »«
Fais bien attention à toi, mon chéri. Tu vas me manquer. »
Il se remémore un sentiment très particulier. Il est le seul rescapé de la famille de sa mère, et tous les voyages qu'il entreprend, tous les choix qu'il fait, toutes les personnes qu'il intègre à leur vie terrifient cette femme. Il devra toujours être là pour elle. Il est responsable d'elle jusqu'à sa mort, comme le propriétaire d'un chien loyal mais accaparant.
« Je l'ai suivi, » finit-il par répondre. « J'ai pris le train avec lui. »
Lily le regarde avec horreur.
« Carl, vous avez suivi mon mari ?»«
Oui. J'ai pris le train de 17h06 à destination Disgristed. Je me suis assis à l'autre bout de son wagon. Je l'observais comme un rapace. Il est descendu à...
« Oxted, » termine Lily.
« Oui, c'est ça. Et je l'ai suivi, le long d'une route. » Au-dessus d'une quatre voies, à côté d'un chantier.
Et puis ?
Jusqu'à un bâtiment d'appartement.
Oh mon Dieu !
S'exclame Lily.
Vous êtes venu chez nous ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous nous avez espionnés ? Vous l'avez tué ? Dans le chantier. Vous l'avez emmené dans le chantier et vous l'avez tué, n'est-ce pas ? J'ai vu de la lumière, je savais que c'était pas normal.
Ils se retournent tous vers Lily qui pointe Franck du doigt et qui s'est mise à crier d'une voix suraiguë. Elle cherche son iPhone dans la petite poche de son sac à main.
J'appelle la police. L'enquête concernant la disparition de mon mari a été ouverte. J'ai leur numéro direct. Je les appelle tout de suite.
Leslie pose sa main sur celle de Lily pour la calmer.
Non, ce n'est pas une bonne idée. Si, c'est une très bonne idée. Il est peut-être encore en vie. Il faut qu'ils aillent vérifier.
Non, insiste Leslie. Le cerveau de Frank analyse, organise, hiérarchise. Il voit un bâtiment vide. Deux grandes fenêtres encore recouvertes de bâches en plastique. Un téléphone jeté à travers la pièce. Et quelque chose d'autre. Un nez, une voix. Un fragment de quelque chose trop ténu pour qu'il l'identifie. La scène change. Frank n'est plus au même endroit. Il se cache sous une casquette de baseball et suit Mark Tate qui entre dans une boulangerie. Il l'observe commander un pain au chocolat et un café. Il est mal poli avec l'employé, qui n'est pas très joli. Il le suit dans la rue jusqu'à son bureau. Il sent son cœur battre à toute vitesse, de la sueur s'accumuler sous sa casquette. Dès qu'il voit Mark, il se retrouve transporté dans cette chambre. Il entend le t-shirt de sa sœur qui se déchire. Il sent la pulsation chaude, profonde dans son poignet cassé, et la musique qui fait vibrer les lattes du plancher. Du rouge et du noir, de la terreur et du dégoût, de la rage et de la haine inondent son cerveau. Tout ce qu'il veut, c'est tuer Mark Tate. Mais il ne peut pas le faire, parce qu'il doit d'abord lui parler. Il doit savoir ce qui est arrivé à Kirsty. Est-elle encore vivante? Si ce n'est pas le cas, combien de temps a-t-elle résisté au courant glacé? Où est son corps? Et pourquoi? 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 Frank prend l'album photo du mariage de Lily et se force à regarder le visage de Mark. Il se souvient de la première fois qu'il l'a vue, de cet après-midi chaud sur la plage, de la façon dont il avait en une fraction de seconde détaillé ses angles et ses proportions, calculé et décidé qu'il ne lui plaisait pas vraiment. Il ressent la même chose aujourd'hui en regardant les photos de cet homme de 40 ans au visage effilé, qui a épousé une femme deux fois plus jeune que lui. « Il est gentil avec vous ?» demande-t-il à Lily. « Il me traite comme une reine. Mais est-ce qu'il est gentil ?»«
Je ne comprends pas votre question. »
Maintenant, Frank est dans la véranda de Kitty. Elle est assise là, fine, fragile, et sa main tremble quand elle leur sert le thé. Il l'avait cru antipathique, gênée par ses invités imprévus. Et si, en réalité, elle avait peur de Mark? Et si... Ses pensées lui échappent. Il ferme l'album et se prend la tête dans les mains. « J'ai pris un congé, mais je devais revenir au travail la semaine dernière. Ils vont me virer. »«
Vous aviez un plan ?»
le presse Leslie.
« Je crois... je ne sais pas.
Je voulais lui parler. » Je voulais qu'il me dise ce qui était arrivé à ma sœur. J'avais besoin d'un endroit et de temps. Et...
Il est à nouveau dans cette pièce vide avec les fenêtres neuves. Il y voit son propre reflet dans la pénombre. Il est seul et il porte un gros sac. Il le cache dans un placard.
J'ai trouvé un endroit et...
Hésite-t-il alors que ses souvenirs l'envahissent, fourmillent et lui donnent la nausée.
Je l'ai forcé à me suivre.